Bonjour à tous et bienvenue sur RDWA à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Aujourd'hui, dans ce numéro de d'histoire et de contes, eh bien, nous avons de nouveau le plaisir d'accueillir Jean-Claude Rouchouz, que nous ne présentons plus hein, sur l'antenne d'RDWA puisque c'est un de nos éléments plus que polyvalent. En tout cas, il a cette casquette d'être auteur de nouvelles que l'on découvre régulièrement dans d'histoire et de contes. Et aujourd'hui, donc, Jean-Claude nous en offre de nouveau trois. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Alors, que vas-tu nous offrir aujourd'hui ?
Ben là, il y a trois histoires qui sont très différentes. Je vais vous laisser les découvrir parce que une fait intervenir un animal et les deux autres non. Donc, vous allez voir.
Allez, on est tout ouïe, Jean-Claude, quand tu veux.
Pas cap. Mon corps long et souple glissait dans l'herbe. Des gouttes de rosée perlaient sur les feuilles des bromes et des ivraies. Voluptueusement, volontairement, je contractais un par un mes anneaux. Cette pâle lumière matinale leur donnait des reflets chatoyants. J'avançais par de longs mouvements ondulants, accrochant mes soies aux grains de la terre, évitant négligemment quelques turricules odoriférants laissés par mes compères. Régulièrement, ma bouche circulaire s'ouvrait pour avaler une terre bactérienne que je transformais en nutriments sucrés ou aigre-doux. Savez-vous que le goût de la terre peut changer du tout au tout sur quelques centimètres ? J'aimais ces longues progressions herbeuses, dominées par d'ombrageuses ombellifères blanches, ces ascensions sur les monticules des taupes, ces glissades dans les ornières aux flaques garnies de lentilles d'eau. Les forêts de graminées, leurs verts rubans dressés vers le ciel, me convenaient, avant que je ne rejoigne mes sombres galeries. Tout allait bien dans ce monde pollinique, dans ce scintillement matinal de jaunes et de verts. Je m'y sentais à l'aise, ni trop de connus, ni trop d'inconnus. J'en étais là de mes pensées, quand soudain, je me sentis saisi par le travers de mon corps. Une voix jeune s'éleva. « Hé, regardez les gars, le beau ver de terre! Il sera bon pour la pêche, celui-là !» L'angoisse me saisit. Je me voyais déjà traversé de part en part par l'hameçon. Mais alors, cinq voix s'élevèrent à l'unisson. « Pas cap, pas cap, pas cap, pas cap, pas cap de le bouffer !» Je vis un gouffre s'ouvrir et je tombais dans une galerie inconnue de moi. Je percevais des contractions, de la chaleur. Je descendais. Soudain, il y eut une chute et la douleur m'enveloppa comme jamais ne l'avait fait auparavant. Un acide m'attaquait. J'avais beau me pelotonner sur moi-même, je ne pouvais lui échapper. D'abord, ce fut ma peau qui partit en déliquescence, puis mes couches musculaires, mes organes se séparèrent, testicules et ovaires s'en allèrent chacun de leur côté, ma chaîne nerveuse se désagrégea et je vis mes ganglions glisser les uns après les autres dans un long tube aux multiples replis. Je gardais la conscience de mon corps, mais ce corps était en morceaux. Après l'acide, d'autres sucs agirent et me réduisirent à l'état moléculaire. Mes molécules se trouvèrent dispersées dans de nouveaux organes inconnus de moi. 100 ans passèrent. Alors, je décidai de me reconstituer. Il me fallut à nouveau 100 ans pour rassembler dans le même lieu, 2 mètres sous terre, toutes ces molécules. 1 000 000 d'années pour les regrouper en bactéries. 1 000 000 000 d'années pour rassembler 3 000 de ces bactéries en un tout harmonieux formant une grande cellule à noyau. Mon esprit, toujours actif, reconstituait, dupliquait, transposait les gènes, les faisant passer d'un chromosome sur un autre. Je voulais être, à nouveau, un ver. 1 000 000 000 d'années plus tard, j'y parvins. Triomphe de l'esprit sur la matière. Quel bonheur ! J'étais splendide. Fin, long, racé, 250 anneaux. Un vaisseau dorsal à valve jouant le rôle de cœur. Hermaphrodite, bien équipé de testicules et d'ovaires, ayant un clitellum fabriquant une capsule pour protéger mes œufs. j'avançais triomphant dans le soleil matinal par de longs mouvements ondulants, accrochant mes 1000 paires de soie au grain de la terre. Mais soudain, au moment où je me glissais voluptueusement dans l'herbe fraîche, je me sentis saisir par le travers du corps. Une voix s'écria « Oh, le beau ver de terre !» Alors, terrifié, j'entendis 5 voix clamer à l'unisson « Pas cap de le bouffer !»
Le lombric est donc la star de cette histoire. Et c'est vrai l'histoire, effectivement. Enfin, il a été, il a disparu, puis il est revenu. Le lombric, enfin, le ver de terre.
Non, il est toujours là. Il est bien vivant et heureusement, puisque c'est l'un des artisans de la fertilité des sols. Donc, il est toujours présent.
En tout cas, on le salue, hein, ce ver de terre qui a vécu plutôt un passage difficile en début d'histoire. Hein.
Oui.
Là, pour le coup, tu as fait un petit peu dans le registre du gore.
Oui.
Mais ça change. Allez, mais je te laisse poursuivre, Jean-Claude.
La guerre. Dans le lointain, je perçois quelque chose d'insolite. Des bruits sourds suivis de crépitements en rafale. Les bruits d'une guerre inconnue dont le front se rapproche. Des éclairs rougeâtres strient un ciel de bronze fondu. Chez moi, dans mon logement en forme de tour, tout est calme, ordonné. Les 3 chats ronronnent sur leurs coussins. C'est alors qu'ils sont arrivés. Ils ont des tenues léopards. Avec leurs 2 pinces, ils tiennent une Krasnikov. Leurs ceintures sont garnies de grenades et de moignards et entourent leur céphalothorax. Leur rostre se prolonge d'une lame d'acier bleutée. Leur regard de hyène me fixe avec cupidité pour les uns, froideur glaciale pour les autres, semblable au regard des tralines, des pitlers et des moutines des temps obscurs. De leurs 8 pattes, ils écrasent mes tomates, mes potirons, mes laitues, piétinent mes plates-bandes de fleurs que je cultive avec tant de soin. Leur masse gris-vert avance comme un mur articulé. Je les interpelle. « Que faites-vous là? Pourquoi piétinez-vous mon jardin? Pourquoi ne restez-vous pas chez vous? Vous êtes pourtant bien dans vos steppes et vos forêts, au-delà du grand océan bleu et de la montagne rose. » Un silence hostile me répond. Il se concerte, se déploie autour de ma maison, puis avance à nouveau. Soudain effrayé, j'abaisse la herse de ma tour. Ils s'écrasent contre elle, leur arrière-garde poussant leur avant-garde. Je vois l'un d'eux se saisir d'une grenade avec ses 2e paire de pinces, la dégoupiller et la lancer vers moi à travers les grilles de la herse. Je me précipite sur la grenade et la lui relance. Un claquement sec se produit, suivi d'un bruit sourd. Des appendices volent de tous côtés. Du sang bleu se répand sur mon seuil. Un œil pédonculé roule sur le sol à mes pieds. Je m'éloigne de la herse de l'entrée et monte l'escalier de la tour. Par mes meurtrières, je vois leurs carapaces hostiles, ondulées. Certains évacuent sur des brancards des corps invertébrés, désarticulés. D'autres se reculent et lancent des dizaines de grenades sur la herse qui finit par vaciller et s'écrouler. J'entends le bruit de leurs pattes et de leurs pinces sur les barreaux. Je monte avec hâte les escaliers. Je sens mes pupilles se dilater, la sueur perler sur mon front et glisser dans mon dos. De la plus haute fenêtre, je les vois embarquer toutes mes possessions sur leur dos épineux et dans leur chariot robotique. Les livres anciens de ma collection, mes bibles, mes corans, mes Bhagavad Gita, mon Lao Tzu, les tableaux peints par mon père, mes dessins drômois. J'atteins le sommet de la tour et referme sa porte métallique à trois serrures, me réfugiant dans la petite bibliothèque éclairée par la douce lumière de l'aquarium à guppies. À nouveau, je les entends. Ça souffle, ça gratte, ça crisse, ça couine, ça hurle et ça ulule de partout. Des coups redoublés retentissent sur la porte, puis un bruit de perceuse et elle cède avec fracas et... Je me réveille. Ce n'était qu'un rêve. Avec soulagement, je constate que la guerre n'est pas pour aujourd'hui. Elle n'est que pour demain. Là, c'est une nouvelle, qui est dans l'inquiétude. Et voilà.
En tension, ouais.
Et voilà, en tension. Bon, ben, comme ça, il y a des jolis rêves, il y a des rêves un peu inquiétants, il y a des rêves fantastiques. Le côté crustacé a toujours eu un peu un côté inquiétant.
Guerrier déjà avec sa carapace.
Guerrier avec cette carapace, les pinces et toutes les appendices, tout ça, ça a un côté inquiétant. En même temps, j'admire l'écrevisse et les homards et les langoustes parce que ce sont des petits chefs-d'œuvre de l'évolution. Mais ben voilà, ça peut donner lieu à une nouvelle.
Eh bien, tu leur rends bien l'honneur qu'ils méritent en tout cas. Merci Jean-Claude.
La dernière sera le petit oiseau qui est plus à la fois dans l'inquiétude et dans la douceur. Le petit oiseau. Par hasard, et pour la première fois, nous sortions ensemble du cours de valse et de tango. Je dansais souvent avec elle. C'était l'une de mes partenaires préférées. Elle marchait, toute menue, à mes côtés. Je lui dis « Devine ce que j'ai dans ma poche !» Elle me répondit avec son petit air futé « Si c'est dans ta poche !» Cela ne doit pas être bien gros. En effet, dis-je, c'est petit. C'est carré? Non. C'est rectangulaire? Non. Alors c'est léger. Eh oui, et même très léger. Un paquet de cigarettes, dit-elle d'un air intéressé. Non, je ne fume pas. J'aime trop mon absence de dépendance. Un mouchoir? Non. Je ne trouve pas. Donne-moi un indice. C'est vivant. Ah, quelle horreur, c'est une souris. Non, ce n'est pas une souris. C'est un petit oiseau? Oui, c'est un petit oiseau. Montre-le-moi, dit-elle, impatiente, en sautillant sur place. J'adore les oiseaux, je sais les élever, donne-le-moi. Je pris la petite mésange bleue dans ma poche et la lui donnai. Mais à peine avais-je fait cela que je me sentis rétrécir. Rétrécir. Je la regardais, elle avait disparu. Plus exactement, il n'y avait plus de visible que la petite mésange aux ailes bleues et à la calotte blanche qui voletait de ci de là. Elle pépia qui mieux, tsi, et tout à coup m'adressa la parole. « Regarde, je vole. C'est merveilleux. Mon rêve est devenu réalité. Comme je suis heureuse, elle s'était transformée en mésange. » Elle s'éloigna, je courus dans le caniveau pour la rattraper, évitant difficilement les boîtes vides de soda et de bière. D'un seul coup, elle fila en ligne droite et entra au BHV, au rayon parfumerie. Je la suivis, passant de justesse entre les roues d'un camion poubelle. Le vigile sursauta en me voyant entrer. « C'est quoi cette horreur » s'exclama-t-il. Il tapait frénétiquement sur son portable, me regardant avec dégoût. Je me faufilais dans le labyrinthe des rayons. Elle voltait, pépillant, de ci, de là, lançant des trilles claires. Les vendeuses, en la voyant, s'exclamaient « Oh, le joli petit oiseau! Que fait-il là? Il s'est perdu !» Elle se posa sur un flacon de parfum, aimez-moi de Caron, un parfum troublant et secret comme les violettes. Elle dodelinait de la tête comme enivrée. Je parvins à m'en rapprocher, mais soudain j'entendis un hurlement strident. Une grosse dame piétinait de fureur à côté de moi. Elle prit son parapluie et tenta de me transpercer. Heureusement, je fis un saut de côté et évitai de justesse d'être cloué sur le plancher. « Vous avez vu ? » criait-elle. « C'est monstrueux, c'est monstrueux ! Je veux parler à un responsable !» J'entendis mon petit oiseau m'adresser la parole. « Viens par là, viens par là !» Elle se posa sur un autre flacon de parfum, Soprietti, de Cartier, aux odeurs d'ambre et de ronces. Elle s'envola à nouveau et fila au sous-sol, rayon quincaillerie. Je fonçai, pris l'escalator, passé entre les jambes des clients qui restaient pétrifiés sur place, écarquillant les yeux, bouche béante, pupille dilatée par l'effroi. Je la perdis de vue, mais heureusement, comme elle pépiait sans cesse et que j'avais l'ouïe fine, je parvins à la localiser. Elle était sur une cage à oiseaux et tapait violemment avec son bec sur les barreaux. « On devrait interdire ces enclos à torture » criait-elle. Je m'en rapprochai, lui dis « Partons d'ici, c'est trop dangereux, c'est trop dangereux !» Elle s'envola, sans tenir le moindre compte de mes avertissements. Je me retournai et vis avec horreur deux énormes vigiles foncer sur moi. Ils avaient de gros souliers cloutés et des gourdins. « il est là, on va le coincer » criait-il. « Bloque-le dans le coin, ça y est, je le tiens !» dit l'un d'eux. Je sentis qu'une partie de moi-même était sous son talon. Je marqueboutai, une douleur fulgurante traversa mon corps, mais je fus libre. « À la saleté !» dit-il. « Il m'a échappé. » Je me glissai sous les cages, les cartons et les aquariums entreposés, laissant une trace sanguinolente sur le sol. Ma petite maison s'était posée sur un meuble, devant un grand miroir qui brillait mystérieusement. D'un bond, je sautai à côté d'elle. Je me regardai et je fus horrifié. J'étais un rat d'égout. Même pas un aristocratique rat noir des greniers, mais un vulgaire surmulot au poil hérissé et à la queue raccourcie de moitié. Il y eut un bruit de bousculade et j'entendis. « Il est là ! Passe-moi ton gourdin !» Le miroir brillait toujours mystérieusement. Je la saisis doucement entre mes incisives pour ne pas abîmer ses jolies plumes. Elle poussa un cri, je fonçai sur le miroir et le traversai, me retrouvant, homme, 100 mètres plus loin, sur le trottoir. Elle était à mes côtés, avec son pullover noir, laissant deviner une chemise de dentelle et sa petite jupe. De sa main droite, elle tenait serrée la petite maison sur sa poitrine. Elle me dit « Tu es bien silencieux. À quoi penses-tu » Elle tourna vers moi sa jolie frimousse et c'est à cet instant seulement, que je compris que j'étais amoureux.
Note d'amour quand même, voilà. Pour terminer cette série, super, merci.
Voilà.
Tu veux nous en parler de celle-ci, Jean-Claude ?
Je ne sais plus du tout comment l'idée m'est venue. C'est vrai qu'il y a une petite partie autobiographique hein, quand même, mais alors l'histoire de la transformation en animal, ça je sais plus comment l'idée me vient. Des fois on est étonné, ça vient d'un seul coup, de l'imaginaire. Le thème du miroir par contre a été souvent utilisé, mais j'ai une autre nouvelle d'ailleurs où je l'ai utilisé, mais dans plusieurs sens. Parce que le miroir, on se regarde dans le miroir, donc il y a tout un jeu entre soi-même et son image dans le miroir, donc il y a des gens qui se parlent devant le miroir, qu'est-ce que je fais ce matin, etc. Et puis il y a aussi alors le miroir dans le sens où on peut, il y a des écrivains qui ont utilisé ça aussi, on peut traverser le miroir et se retrouver dans un autre univers.
Oui, c'est vrai que ça peut être aussi une porte.
Une porte, ouais. Voilà, ça a aussi une sorte de... d'idée de porte qui va vers autre chose. Donc voilà, donc j'ai utilisé cette symbolique du miroir.
Oui, et puis pour en revenir à la transformation, je crois qu'on est tous voués à se transformer. Donc
Oui.
Ben je te remercie hein, Jean-Claude.
J'étais avec plaisir toujours que j'ai raconté des histoires.
Ben, n'hésite pas à revenir. Hein. D'ailleurs, chers auditeurs, vous pouvez retrouver tous les numéros de d'Histoire et de Contes sur le site www.rdwa.fr dans la rubrique Espace et Contes et plus précisément d'Histoire et de Contes. Jean-Claude, je te remercie encore pour ta générosité. Puis
merci.
À bientôt.